importante, afin d'être bien conseillé et surtout bien guidé. Tous les samedis de 10h à midi sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, Jean Belzy et ses collaborateurs vous informent. Parlons automobile et affaires, 2 heures de conseils dans la bonne humeur. C'est un rendez-vous à ne pas rater.
Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on a ou qu'on aile. Votre huile mettez sous étagelle sans ouéter, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le Journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409.
Il faudrait qu'il y en ait plus de gens qui aillent dans les galeries, qui voient que c'est pas si cher.
Les arts visuels, ça aurait dû être un peu plus vu.
Il y a tellement à voir, c'est incroyable.
Beaucoup de rouge, on a du ocre, on a du orange.
La vie prend forme de toute cette glaise, cette boîte.
C'est une boule d'aluminium avec des bouchons d'oreilles.
Amateurs d'arts visuels, laissez vos oreilles s'en mettre plein la vue. Le magazine radio in situ.
C'est un peu comme un spectacle laser, mais à l'intérieur de la tête.
Suivez la guide Chantal Lheureux tous les samedis de midi à 13h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.
Jean du pays, c'est votre tour.
Diversité Radio Centre-Ville, chaque samedi de 13h à 15h sur les ondes du 102,3 FM. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant des représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité Radio Centre-Ville, c'est un rendez-vous avec le français comme outil d'intégration à la société d'accueil.
C'est votre tour, je vous laisse.
Diversité Radio Centre-Ville, c'est
Afro-réalité,
Afro-entrepreneur, actualité caraïbéo-latine et j'en passe. C'est également du sport diversifié. Ce sont des découvertes diverses. C'est la grande table de la diversité. Diversité Radio Centre-Ville, chaque samedi de 13h à 15h sur les ondes du 102.3 FM.
Aujourd'hui, samedi 18 mai, à votre magazine radio In Situ, une entrevue avec l'artiste visuel Pierre Durette, de passage à Montréal, au sujet de son exposition Le Chant des Marais, au splendide lieu de diffusion Projet Casa jusqu'au 9 juin. En rediffusion, une entrevue en studio avec Pamela Landry au sujet de l'exposition en tournée à Calmir, actuellement présentée à l'entrepôt de Maison de la Culture La Chine jusqu'au 26 mai. Et en troisième partie d'émission, on fera un retour en compagnie de Lena Guillot sur le film Bonheur, Pierre et Marthe, réalisé par Martin Provost, à l'affiche à partir du 31 mai. Et on fera aussi un retour sur l'inauguration en grand des nouveaux espaces de la Société des arts technologiques jeudi passé. Très bonne émission à l'antenne de Radio Centre-Ville 102,3. Bon samedi, je vous dirais, radio en cette longue fin de semaine de la fête des Patriotes. Très bienvenue ce lundi et très bienvenue à votre magazine Radio In Situ dédié aux arts visuels, aux disciplines connexes toutes tendances et qui propose chaque semaine une sélection d'expositions et d'événements recommandés. Au micro, Chantal Lheureux, j'anime et je réalise ce rendez-vous radiophonique hebdomadaire depuis plusieurs années avec l'espoir chaque semaine de représenter du moins une toute petite part de tout le foisonnement du milieu visuel, soutenu chaque semaine par notre technicien à la mise en onde, aux nombreux montages, à la promotion Robert Loca. Et Lena Guillot se joindra à nous en troisième partie d'émission. Et bien sûr, visitez la page Facebook de l'émission ainsi que le blog magazine In Situ sur WordPress, deux plateformes qui permettent de prendre connaissance de nos nombreuses activités, de notre sélection d'expositions et d'événements recommandés. Alors, sans plus tarder, en ouverture d'émission, place à un entretien avec l'artiste visuel Pierre Durette, qui est à Montréal pour quelques jours. Il demeure maintenant en Gaspésie. Il va nous parler de son envoûtante exposition Le Chant des Marais, qui regroupe trois séries d'œuvres, Le Délabrement des Possibles, réunissant neuf grands dessins fourmillant de détails, une vingtaine de sculptures dont l'ensemble porte le nom Marais, ainsi qu'une série d'estampes très évocatrices titrée Voyage 1. On entendra donc cet entretien après cette chanson de Renaud en lien avec certains des thèmes préoccupants de l'artiste.
Un oranger, là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des boupillers. Jusqu'à Terry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux femmes qui se battaient, je viens planter un oranger.
Après une absence de la scène des arts visuels montréalaises quelques années, et après une participation à une exposition collective titrée « Domestique » à la Galerie Cash à la fin de l'année 2022, Pierre Durette, qui habite maintenant en région, en Gaspésie, à Causapscale, nous revient en force avec une exposition d'ampleur dans toutes les salles d'exposition du lieu de diffusion Projet CASA, l'occasion de découvrir toutes les sources d'inspiration, toutes les séries d'œuvres auxquelles il travaille actuellement. Et je suis absolument ravie de pouvoir rencontrer l'artiste Pierre Durette, que j'ai déjà interviewé dans le cadre du magazine Radio In Situ au début de l'émission. Ravi de constater le chemin accompli. Bienvenue.
Ah, merci beaucoup.
Alors, je le rencontre en ce vendredi avant qu'il ne reparte à Causapscale en Gaspésie, dans la vallée de la Matapédia, ce qui explique votre absence depuis quelques années sur la scène montréalaise. Mais on est ravis de vous revoir.
Oui, merci. Oui, c'est... Je me suis absenté, ouais. En même temps, même quand j'étais à Montréal, j'étais peu visible. En fait, j'exposais, mais on voyait plus mes œuvres que moi.
Mais vous êtes fait fort probablement, mais vous êtes fait toute une place dans votre région. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques articles sur votre installation en région, puis les expositions que vous avez faites, notamment au Musée des Beaux-Arts de Saint-Laurent.
Oui. J'ai eu des belles expositions. J'ai eu des reconnaissances avec les prix-là. Le conseil des arts et lettres là, qui m'ont décerné un prix.
Prix créateur, hein?
Oui, prix créateur de l'année. Et puis j'ai eu quelques politiques d'1% là, que j'ai réalisées également.
Alors, de quoi vous tenir actif en région? Tout à fait. Je pense que vous appréciez de vivre en région.
Oui, j'adore. J'adore énormément. Mais j'avoue que le dynamisme et côté vie et culture de Montréal m'attire toujours, en fait.
Voilà, c'est ce que j'ai pu voir mercredi soir lors du vernissage bondé ici à Projet CASA, vernissage qui soulignait l'ouverture de cette exposition de Pierre Durette, le chant des marais. Alors, peut-être même un petit rappel de vos sources d'inspiration actuelles. Vous êtes toujours fort inspiré par la nature, par
la notion de civilisation et le fantasme d'un nouveau monde. Hein? C'est toujours quelque chose qui vous inspire, c'est ce que je peux constater dans les œuvres qui nous entourent, là, Projet Casa.
Oui, exactement. Je me rends compte avec les années que j'ai des images récurrentes, en fait, qui reviennent, des inspirations. Oui. Surtout avec cette exposition-ci, où ce que la pièce maîtresse de l'expo, c'est un assemblage de 9 dessins, en fait, qui constitue beaucoup de personnages là, intemporels. En fait, là, c'est intemporel et anachronique. En fait, on ne sait pas quand que ça se passe, puis où que ça se passe, vu que le fond est blanc. Puis on peut voir autant des dinosaures à côté des personnes futuristes et des personnes plus d'habits coloniales.
Absolument. Alors, c'est toute une mise en scène qu'on peut voir sur, mon Dieu, 9 dessins assemblés ici dans la salle principale et qui raconte quand même quels événements ou quels thèmes transmettez-vous à travers ces 6 dessins de grand format et réalisés récemment?
Oui. Bien, toute l'exposition, ça fait un an et demi que je travaille dessus à temps plein. Là, c'est de manière très intense, en fait. Puis les dessins, on peut voir des œuvres, on peut voir des images de l'actualité, comme certains personnages qui ont pris assaut au Capitole. Après, des clins d'œil avec, c'est un peu des fois crypté, un peu avec les théories du Pizzagate, là, les sortes aux États-Unis où ce qu'il parlait des conspirationnistes qui croyaient qu'il y avait un réseau pédophile dans un sous-sol de pizzeria. Fait qu'il y a un mélange vraiment d'actualité.
Puis, et c'est d'autant plus d'actualité avec tous les problèmes que nous vivons actuellement, et les tensions dont nous sommes témoins. Aux nouvelles actuellement.
Là. Oui, exactement. Oui. Puis c'est vraiment ça. C'est une série que j'avais débutée en 2008, ce genre de petits personnages-là destinés au crayon de couleur. Puis je l'avais arrêté. Puis là, avec justement, comme que vous dites, là, avec toutes les choses qu'on voit dans l'actualité, beaucoup de mouvements de masse, je trouvais ça les images sont apparues là, d'elles-mêmes. Puis là, j'ai dit, OK, il faut que je fasse une série avec ça. Là.
On retrouve donc toutes les problématiques qui vous préoccupent, là, comme par exemple l'évolution de la société, l'environnement, la cause écologique.
Oui, exactement. Ouais. Puis même les
aberrations dont on peut être témoin dans l'actualité.
Oui. Puis la guerre en Ukraine aussi, ou la migration, en fait. Puis c'est une sorte de dystopie. Puis on ne sait pas si c'est comme un passé, c'est un mélange avec un passé fragmenté. Puis un futur anticipé, en fait. Là,
c'est... Ben oui, dans vos œuvres, les différents temps se côtoient, le passé, le présent et le futur.
Oui, exactement. Ouais, je trouve ça important. Puis c'est pas quelque... J'ai jamais voulu faire de l'art politique ou donneur de leçons, mais ça transparaît quand même. On peut voir quand même une prise de position quand on regarde mon travail.
Un souhait certainement de susciter un questionnement à travers vos œuvres.
Oui, exact. Ouais.
Alors, écoutez, si vous me prenez plus de temps, Durette, écoutez, je ne peux que vous poser la question, puis c'est parce que je vous ai parlé lors du vernissage, là, sur toute la signification de du titre de votre exposition. Hein, ça, le chant des marais, vraiment, ça réfère à une autre série d'œuvres qu'on peut voir ici avec bonheur, Projet Casa. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce titre, le chant des marais? Vous m'en avez parlé. Et ça représente, comme j'ai mentionné, une série de sculptures ici.
Oui, exactement. Oui. Bien, le chant des marais, je trouvais que c'était un bon lien pour faire le lien avec les dessins et les sculptures. Parce que, justement, c'est, pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus... ça devient de plus en plus difficile de se faire une idée sur plusieurs choses. À mon sens, on vit dans une époque un peu vaseuse, où que c'est difficile pas de prendre position, mais de tout comprendre, parce que ça devient des vases communicants. Si on prend parti pour quelque chose, ben là, après ça, on regarde un petit peu plus loin, puis oh... groupes, là ça devient des ondes. Les ondes deviennent de plus en plus grises et s'élargissent. C'est sûr qu'il y a des aberrations que je parlerai pas aujourd'hui, mais que c'est clair. Il y a des évidences qu'il y a des choses qui n'ont aucun sens, mais il y a d'autres là, qu'on vit dans d'une époque très trouble. Puis qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est de transposer les personnages en dessin en faisant des figurines plus grandes en porcelaine. En fait, toutes mes sculptures, c'est des porcelaines et ils sont tordus. C'est des sculptures moulées, ça veut dire qu'ils ont plein de détails, mais par la suite, je les ai trempés ou j'ai fait couler de la porcelaine liquide dessus avant qu'ils soient cuits. Ça veut dire que tous les détails sont cachés, sont enveloppés. En plus, avec le mouvement que je leur ai donné, ils ont de l'air un peu à tomber. On ne sait pas s'ils sont en train de fondre ou qu'ils sont pris dans quelque chose, une marée noire, une sorte de marée noire.
Parlez-nous de la texture, hein, vraiment très vaseuse, qui est vraiment très évocatrice de la vase.
Oui, exactement, c'est ça. Ils sont comme pris, puis on voit que c'est une sorte de...
Est-ce que vous avez utilisé quelque chose de particulier, là, j'ai entendu là, que vous utilisiez de la laine d'acier?
La laine d'acier, c'était pour retrouver pendant la cuisson, si on met du fer, ça devient de la rouille, en fait. Là. Fait que les porcelaines sont rouillées à certains endroits, puis par la suite, la cuisson finale, je l'ai fait par la technique de l'enfumage, c'est-à-dire que je fais une cuisson dans de la ribbe de bois à l'extérieur. Ça veut dire que mes sculptures qui sont porcelaines, qui sont blanches, avec de la rouille, ben là, ils deviennent noircis, soit toutes noires, grises, si je fais des zones de cache avec des papiers, tout ça.
Alors, félicitations, ce sont des sculptures très évocatrices et qui représentent non seulement des humains, mais aussi des animaux en grand nombre, qui fréquentent les marais.
Oui, exactement. Mais j'ai essentiellement pris, pour l'exposition, on peut voir des corneilles de différents formats. Puis aussi, plus vers le haut, dans la deuxième salle en haut, on peut voir quelques moutons, en fait. Là. Puis j'ai pris des animaux qui sont très communs, surtout où ce que je viens. Puis je trouvais intéressant de les faire interagir avec l'humain.
Oui, tout à fait, absolument. Alors, et pour compléter sur vos dessins qui sont dans la grande salle, le 6 dessins de grand format, vous aviez parlé tout à l'heure que vous utilisez vous explorez de nouvelles images sources, hein?
Oui, exactement. J'ai toujours travaillé avec des images sources durant mes dessins. En 2008, je travaillais plus avec des figurines que je trouvais sur Internet. Mais là, présentement, quoi que j'ai recommencé cette série-là, entre autres, c'est parce que là, je peux travailler avec l'intelligence artificielle. Souvent, on considère que le AI est un peu impersonnel. Puis c'est des. Mais moi, je trouve que ça bonifie vraiment mon travail. Mes personnages, à peu près, ils mesurent un pouce de haut, fait qu'on peut piger des scènes au crayon de couleur, fait qu'on perd l'effet vraiment qui pourrait ressembler, qui est générique avec certaines images AI. Quoi qu'il y en a d'autres, on pourrait même pas savoir que c'est de l'AI, mais en tout cas, peu importe. Vu que je les dessine, on perd un peu cet effet-là. Puis le gros avantage, c'est que tout le travail est extrêmement plus personnel parce que je choisis exactement le type de personne que je veux avec le mouvement, l'action. C'est-à-dire que je peux créer vraiment un monde qui est plus précis, en fait. Ouais.
Oh, merci justement. Merci de ces précisions. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir dans ces six grands dessins. Alors, ça vaut de prendre le temps d'observer tous ces personnages et toutes ces mises en situation. Ici, à Projet Casa, si on parlait maintenant des autres séries d'œuvres, vraiment les dessins, les estampes, on peut voir ici toutes vos séries d'œuvres, réellement, là?
Oui. Mais c'est ça. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, ça fait un an et demi que je travaille sur ce projet-là. C'est des œuvres qui sont tous nouvelles, à part qu'est-ce qui est encadré. Il y a une petite série d'estampes que j'ai faite en 2016.
C'est magnifique.
Oui, merci beaucoup. C'est des photos litho, une photo gravure. J'avais fait ça à l'atelier circulaire à l'époque et je l'avais exposé à la galerie Alain Pirois. Et puis, je trouvais que je ne l'avais pas vraiment beaucoup montré. Je ne l'ai pas montré autre que là. Puis, je trouvais que ça faisait une bonne résonance, un bon lien. Puis, ça marchait bien dans le lieu d'exposition. Il y a des pièces que j'ai faites en pensant, à l'expo, mais mais aussi au lieu. C'est comme à côté des grandes séries de neuf dessins, il y a un petit endroit un peu fermé. Fait que là, j'avais envie de faire une sorte de vivarium qui est justement là, quasiment comme caché dans le trou qu'il y a là, là puis qui est un monde désolé. Au lieu qu'il y ait plein de personnages, ben là, il n'y en a aucun. Puis là, après ça, là, ça a continué. T'sais, justement, quand on parlait là, de la Terre promise ou Arcadia, là, le lieu... L'idée de l'exploration spatiale, trouver un ailleurs, un meilleur, un lieu paradisiaque. Là. Fait que le palmier est récurrent dans mon travail parce qu'il fait référence à ça. Là, un peu une folie là, qu'on parle constamment dans les médias de la décolonisation de tout, mais quand on parle après ça de la conquête spatiale, c'est aller coloniser Mars, coloniser la Lune. Fait que c'est ça. Fait que l'image du palmier est assez récurrent. J'ai fait 3 dessins. Plus grand avec qui monte soit des palmiers avec un monde désolé, puis une structure qui a l'air d'être la même structure mais détruite de plus en plus.
Elle côtoie tout à fait bien vos sculptures là.
Ouais, puis aussi il y a justement il y a un fond d'eau sur certaines, fait que justement l'idée du marais est un peu partout en fait dans l'image.
Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des œuvres de différents formats ici présentées, tant des grandes œuvres que des toutes petites là, ouais, qu'on peut acquérir.
Ouais. Ben oui, c'est ça. Ben moi, j'adore dessiner sur des papiers 30 par 44 pouces, là, le format pleine page en fait. Là, mais après ça, des gravures, j'ai des petites gravures un petit peu plus grandes que format Polaroid. Puis les sculptures, j'ai commencé à des petites sculptures, puis j'ai décidé d'en faire un scan 3D des figurines parce que je travaille par moulage. Fait que j'avais moulé des petites figurines à peu près de 8 pouces de haut. Là, j'ai décidé de les scanner, de les imprimer en plus grand avec j'ai une imprimante 3D, justement, qui rend plus personnel encore mes trucs parce que je peux prendre plus d'objets. Puis là, je les ai faites à peu près un pied de haut. Fait que là, ça, c'est vraiment par... je trouve qu'avec la technologie, pour moi, pour ma part, la technologie rend vraiment mon travail plus personnel, en fait. Puis je trouve que je suis dans une belle époque pour ça.
Oui, puis c'est ça. Il y a différents ensembles. Vous associez les œuvres dans des ensembles. Vous présentez ça dans certaines salles, un ensemble d'œuvres. Vraiment aussi tout autant évocateur. C'est très intéressant.
Oui. Tu sais, mes dessins, les 9 dessins de petits personnages, justement, je les avais toujours pensés... j'ai pensé à la composition pour qu'ils soient autonomes, individuels, mais toujours dans une idée de faire un tout dans un grand monde, en fait. Fait que quand je dessinais, j'avais toujours ça en tête. En fait, puis je voulais pas les exposer comme antérieurement, comme une série une à côté de l'autre, parce que pour moi là, pour ce projet-là, ça m'intéressait moins parce que t'en regardes une, t'en regardes deux, trois, là ça devient comme presque toute la même affaire, tandis que là, je pouvais vraiment créer un grand monde. Puis qu'est-ce que je voulais trouver important, c'est que chaque dessin, je m'avais mis une contrainte, j'avais mis un dinosaure, un véhicule, un insecte, puis un oiseau, fait qu'il y a des sortes d'instinctions, puis quand on regarde ça ensemble comme ça, le motif revient un peu, à la manière un peu d'une tapisserie, en fait.
Absolument, déployé de cette façon-là pour le public. Est-ce que c'est l'effet que vous souhaitiez, cette disposition des œuvres dans tout le lieu de diffusion Projet Casa?
Oui, j'ai vraiment pris un... Ça a été dur de construire l'exposition parce que le lieu est extrêmement fort. C'est un lieu de toute beauté. C'est rare, tu sais, c'est une place, c'est une maison en fait. Ça veut dire que différents types de salles, beaucoup de moulures, style colonial, là, mais la néo-renaissance française. Là, fait que j'ai beaucoup, puis surtout que je viens de très loin. Ça veut dire que j'ai imaginé mes socles qui sont faits à bois brut d'un moulin potatif de mes voisins. J'ai tout apporté mon stock pour être prêt là. Puis, ouais, c'est ça, je serais satisfait. J'espère que les gens vont apprécier également. Là, en fait.
Absolument. Peut-être une toute dernière question avant que nous puissions clore cette entrevue de grand intérêt, Pierre Durette. Si on pouvait peut-être se déplacer et aller décrire une œuvre en particulier en terminant. Okay. On pourrait peut-être terminer en décrivant vos dessins qui sont d'une grande esthétique, okay. Réellement, qui côtoient tellement bien les sculptures attenantes.
Oui. Oui, bien merci. Oui, bien moi, je travaille essentiellement, bien je travaille avec juste le crayon de couleur, le Prismacolor en première, là, tu sais, de plus de qualité que les boîtes, là, mais qui se ressemble en fait. C'est un crayon très cireux. L'avantage avec ça, c'est que moi, je travaille jamais avec une seule couche. C'est des superpositions. Même si c'est des gris ou des beiges, j'ai minimalement... il y a toujours du gris, en fait, dans mes couleurs. Il y a minimalement 3-4 couches de couleurs. Puis le Prismacolor, il permet ça, le mélange des couleurs, la superposition.
Alors, on retrouve les palmiers qui vous inspirent tant, et puis vraiment une structure qui évoque un futur un peu inquiétant.
Oh oui, exactement. Même si j'ai des jeunes enfants, puis j'essaie de rester optimiste. Quand on lit le rapport du GIEC ou qu'on est moindrement sensible. De l'environnement ou de la politique, ben on se rend bien compte que ça va être difficile. Ça va être difficile, fait que c'est une sorte de dystopie. Puis j'ai de la difficulté dans mon travail d'imaginer quelque chose de joyeux. Mais c'est
avec un centre-ville au fond, là.
Oui. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là.
Alors, c'est cet imaginaire-là d'un futur inquiétant qui vous habite, Pierre Durette?
Il y a
un optimisme quand même qu'on voit dans plusieurs côtés, dans plusieurs œuvres.
Oui, c'est ça. Là, ça a l'air d'être rebutant. Là, c'est pas très vendeur,
ce sont des œuvres absolument magnifiques et qui s'inspirent de votre lecture de la civilisation, là.
Oui, tout à fait. Puis il y a des œuvres qui ressemblent, surtout les sculptures, là. C'est un peu des œuvres à la Pompéi, un peu ensevelie. Puis la porcelaine, avec la technique de l'enfumage, qu'est-ce que je trouve magnifique, c'est que parfois, ça ressemble à de la terre, de la pierre, des fois à du métal un peu, parce qu'il y a des côtés luisants. C'est une technique. Puis vu que je travaille avec le moulage, c'est tout le temps les mêmes figurines, sauf qu'ils sont sur la table. Il peut y en avoir 7-8 que je vois là, présentement, puis ils sont tous différents. On oublie que c'est les mêmes personnages juste parce que l'effet d'enfumage est tellement aléatoire puis non contrôlé qui permet d'oublier ça puis de juste se concentrer sur la forme puis les couleurs.
Puis il y a une belle poésie qui se dégage de vos œuvres. Hein?
Oui, bien, je pense que oui.
Oui. Vous êtes fortement inspiré par la nature qui vous entoure à Causapiscal.
Oui, exactement. Oui, ça a pris du temps.
Oui.
Ça a pris du temps parce que c'est un changement assez drastique là, entre la ville, Hochelaga, Maisonneuve, Mylan, où était mon atelier, puis le calme profond de Causapiscal, mais ça me... Ouais, là, je suis retourné sur mes pattes, puis le début d'une nouvelle série est déjà entamé.
Oui, c'est ça, vous avez un nouveau projet qui s'en vient, là, Pierre Durette. Hein?
Oui, tranquillement. Ben là, de toute manière, il y a un gros rassemblement de céramique, là, mille un pot, en fait, là, où il y a des céramistes.
Abel David.
Oui, exactement. Fait que là, il y a un espace galerie. Fait que je vais aller présenter certaines de mes pièces là-bas. J'ai un espace là-bas. Je suis content. Je vais pouvoir prendre encore plus de temps, là, parce que c'est quand même début juillet, mais je vais prendre plus de temps de ce temps-ci à faire ça, en fait, discuter.
Alors, écoutez, Pierre Durette, ça fait un grand plaisir d'échanger. Je vous aurais posé encore tellement de questions, mais c'est tout le temps dont on dispose, mais quel plaisir de vous retrouver après toutes ces années et de pouvoir voir toutes vos œuvres, toutes vos séries d'œuvres réunies ici en un seul endroit. Projet Casa, vraiment, encore pour un bon moment. Jusqu'à quelle date?
Jusqu'au 9 juin.
Merci encore et bon retour en Gaspésie. Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.
Treize sculpteurs de pierre de l'atelier Sculpte sont réunis à la Galerie des 1040 du 14 au 18 mai, de 13h à 19h, dans le cadre de l'exposition Flou. À travers cet événement, les artistes entendent réfléchir sur leur rapport personnel, voire intuitif et symbiotique, avec la matière et son caractère brut, démarche confinante au spirituel. En clôture de l'exposition, un finissage ce dimanche de 13h à 18h, une belle occasion de rencontre au 1040 rue Marie-Anneste, angle de Christophe Colomb.
Une fois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, que tu le viens m'embrasser. Je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlop bio, une cuisinière avec un four en verre et des tas de couverts et des belles gâteaux.
Ouh, voilà qu'une musique bien entraînante pour accueillir Pamela Landry, qui est une artiste et ex-enseignante au cégep du Vieux-Montréal. Hein. Elle vit et œuvre tant à Montréal qu'à Chaudière-Appalaches présentement. Elle a obtenu un baccalauréat en art de l'Université du Québec à Chicoutimi et une maîtrise en open media. Je vais lui poser une petite question. Qu'est-ce que l'open media de l'Université Concordia? Et elle a obtenu récemment, en 2022, félicitations, le prix Pauline des Hôtels pour son projet Accalmir qu'on peut apprécier actuellement à la Maison de la Culture Maisonneuve, qui récompense chaque 3 ans un artiste engagé hein, dont le travail en sculpture ou en installation en lien avec la mission de Circa s'est démarqué aux yeux du public et de la communauté artistique. Elle a plusieurs expositions en actif au Québec, au Canada, Outre-mer aussi, une résidence à Londres. Alors écoutez, l'artiste est fasciné par la relation entre l'environnement quotidien, la technologie, et puis la création d'une médecine de l'objet. On va la questionner là-dessus, ça pique la curiosité. Médecine de l'objet, de la technologie. Elle qualifie d'ailleurs ces sculptures qui sont des mécanisées et interactives de machines à investissement d'affect. Elle présente actuellement donc ces sculptures réunies sous le titre « Accalmir » à la Maison de la Culture Maisonneuve jusqu'au 28 janvier. Une exposition en tournée, il semblerait. Je ne sais pas si la tournée est terminée ou se poursuit. Bon, ben voilà, on va en savoir plus long. Bienvenue, Pamela Landry.
Ben, merci bien pour l'invitation.
Quel grand plaisir de vous accueillir. Très bonne année 2024. On peut encore le dire. Bon, c'est ça. Si vous nous présentez d'abord, on ne peut que vous poser cette première question. Si vous nous présentez cette fascination de l'objet du quotidien hein, qui réfère à l'univers des femmes et cette fascination pour la technologie, d'où est-ce que ça origine, cette fascination?
Ah, mon Dieu! C'est étrange parce que ça origine, ben, ça peut remonter Je dirais jusqu'à mon baccalauréat,
ouais.
Où j'avais terminé mon baccalauréat, j'étais plus en peintre,
ouais.
Mais j'avais commencé à y intégrer des éléments qui ouvraient, qui pliaient, donc la peinture se déployait dans l'espace, puis j'avais commencé à y intégrer des petits mécanismes qui étaient très simples, qui pouvaient représenter l'eau, le vent, les principaux éléments, on va dire, naturels. Puis c'est de là que tout ça s'est enclenché, là, au fond, m'intéresser. Donc, non pas le fait que ça puisse représenter le feu, l'eau, l'air, mais en soi, l'élément qui allait faire de la lumière, du okay. vent, puis de fil en aiguille, je vous dirais, c'est de là qu'a émergé cet intérêt là pour, au fond, j'ai dévié de la peinture vers cette fascination plus pour la technologie.
Oui.
Puis la technologie que je trouvais aussi qui n'était pas, indifférente au fait d'être genrée, si vous voulez.
Okay.
Parce que la technologie appartient en général beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes.
Oui.
Donc, de là aussi mon intérêt là pour cette chose.
Puis vous avez fait une maîtrise en open media. Qu'est-ce qui est étudié en open media à l'Université
ben,
Concordia?
Au fond,
je suis curieuse.
En open media, oui. À Concordia, comme c'est très disciplinaire, hein, c'est peinture, oui. sculpture, c'est très... voyons, j'ai oublié le terme, là, mais en fait, c'est très disciplinaire. Fait open media...
C'est la multidisciplinarité.
C'est ça. Ah, permettait okay. aux gens qui avaient plus une relation peut-être avec la performance ou,
oui.
Au fond, c'est ça, avec un objet qui était moins identifiable ou un intérêt qui était moins... catalogable par rapport à une discipline.
Ah oui, d'accord. Alors, écoutez, ça, écoutez, alors, il faut savoir naviguer à travers l'ampleur de l'approche multidisciplinaire.
Oui.
Quand on est en open media.
Oui, c'est ça. Ouais. Puis au fond, moi, c'est ce que j'avais trouvé intéressant en open media à l'époque aussi. Ouais. C'était qu'au fond, on rencontrait des gens de beaucoup à l'intérieur d'open media, des gens, c'est ça, avaient plus un intérêt, mettons, pour la performance. Souvent, une relation plus corporelle, je trouvais. Puis au fond, il y avait même une des étudiantes à l'époque, là, Carolee Fuglen, qui s'intéressait plus au son. Ouais. Fait que, tu sais, c'était comme le début aussi de cet intérêt-là que les artistes manifestaient pour des choses un petit peu plus... on pourrait parler d'art vivant ou immatériel aussi, parce que si on parle de
c'est une approche un peu plus exploratoire, peut-être?
Aussi, c'est ça. C'est moins tourné.
Moins balisé.
C'est ça, quelque chose de plus...
comme vous disiez, disciplinaire.
Oui, c'est ça. Ou conservateur, là, je pourrais dire aussi. Là.
Ah, donc, ça vous a... Je vous regarde, là, me semblait avoir été très inspirée.
Ben, j'ai eu beaucoup de plaisir.
Oui, beaucoup.
J'ai rencontré des artistes. Là. Maintenant, Maria Laborello, Carolee Fuglen sont toujours actives.
Alors, écoutez, quand je vous ai rencontré, en tout cas, j'ai été vraiment très captivée par votre exposition à la Maison de la culture Maisonneuve. Et puis, vous m'avez parlé, vous avez présenté là, qu'il y avait plusieurs machines à investissement d'affect. Écoutez, je pense que ça vaut de les présenter. Vous m'avez présenté ça.
Oui.
Et c'est en lien avec des expériences que vous avez pu faire auprès de différentes populations. Hein?
Au fond, j'ai effectué un transfert vers une approche plus, je trouve, positive face à la condition des femmes. Là.
Oui.
Parce qu'au fond, je vous dirais, depuis très longtemps, mon travail était que je considère féministe.
Oui, OK. Donc, vous considérez un peu comme une artiste engagée, là,
oui,
féministe.
Oui, okay, puis à un moment donné, j'ai effectué un tournant passant d'une approche qui était plus vindicatrice, mais que je trouvais troublante pour une jeune femme que j'étais, là, qui pratiquait en art. Puis j'ai essayé d'effectuer un tournant vers une approche qui allait travailler davantage avec une qualité positive chez les femmes, était bon. Prendre soin. Tu sais, auparavant, je pouvais peut-être plus critiquer l'image qu'on proposait aux filles, aux femmes.
Soignante.
Soignante, mais aussi c'était relatif à
au service.
L'aspect plus beauté du corps, l'objectification du corps des femmes. Puis là, j'ai effectué un tournant vers en essayant de m'attarder davantage sur une qualité qu'on considère positive, bien qu'elle soit toujours, à mon avis, stéréotypée, celle des femmes qui prennent soin. Alors, de là, je me suis dit, bon, je vais prendre la technologie que j'utilise et au lieu de lui faire incarner un portrait de femme, ce que j'avais l'impression de faire, ben, je vais permettre à cette machine-là d'incarner cette possibilité d'être soignante, là. Donc, la femme n'est plus, entre guillemets, la femme n'est plus soignante. Moi, comme artiste, je m'en sers pour fabriquer mes machines, mais c'est la machine qui prend un peu le relais de cette soignante-là. Mais c'est comme un transfert. Mais c'est ça. Donc, les premières machines.
Une machine, donc, représentante un peu de l'identité féminine actuelle.
Oui, c'est exactement. Ah. Et pour revenir à votre question, au fond, je me suis toujours demandé, bon, qu'est-ce que cette machine-là peut faire? Donc, je me suis attardée à des groupes en particulier. Puis c'est aussi au fil de rencontres que j'ai fait dans le temps, là, j'avais fait une pièce lors des 10 ans des Journées de la culture où on travaillait avec des communautés, puis j'avais rencontré des gens qui m'avaient parlé, qui étaient travailleurs sociaux avec des jeunes, puis qui m'avaient parlé des snooze land, qui sont des espaces sensoriels qui sont souvent utilisés pour les gens autistes, où ils vont être dans ces espaces-là, puis c'est des espaces qui sont lumineux, qui ont des effets de lumière tamisée, qui peuvent avoir des odeurs.
Donc, ils sont réconfortants pour eux.
Oui, c'est ça, des petits mouvements.
Attractifs et réconfortants.
C'est ça. Je suis partie de ça. Okay. Et de là, bon, j'ai étudié un petit peu. Puis
parce que dans le fond, vous vous inspirez un peu de ce qui est créé aussi en intervention.
Oui. Au fond, des stéréotypies. Oui. Je regardais les stéréotypies que ces communautés-là peuvent utiliser et en me disant, la communauté des biens portants, on va dire, peut peut-être se servir de ça, au lieu que c'est souvent, on considère que c'est souvent l'inverse, c'est les biens portants qui prennent soin des gens qui ont plus, qui ont un handicap ou quelque chose. Là, je me dis, mais je vais me servir, comment est-ce qu'une personne...
Comment ça peut être appliqué à monsieur, madame, tout le monde, ça, ou comment fonctionne relativement
donc,
bien.
Donc, il y a eu la pièce fixation où là, j'avais fait des espèces de grands tissus, il fallait se mettre la tête dans un hublot, et on voyait une machine faire des mouvements répétitifs. Et j'avais sélectionné les mouvements en fonction un peu de ce que des personnes autistes, le genre de gestuelle qu'elles explorent pour qu'elles exploitent pour se calmer.
C'est un peu d'essayer de favoriser un rapprochement entre la population et certaines la population et certaines communautés plus vulnérables.
Oui, c'est ça, exactement.
En permettant de vivre un peu de leur expérience sensorielle.
Puis au fond, un peu en échangeant, que l'échange soit pas toujours du sens du bien portant qui aide. Tu sais, on voit souvent cette flèche-là, puis là, je fais une flèche sur le comptoir. C'est le bien portant qui va aider la personne en difficulté, mais là, je me disais...
Le bien portant peut peut-être avoir besoin des fois d'être soutenu.
Des gens qui ont des soucis de sensoriels, ils ont aussi une approche qui est très intuitive.
Oui.
Puis je me disais, cette intuition-là, on peut la mettre en œuvre, lui faire prendre une forme, puis qu'elle aide, mais c'est sûr que c'est toujours des fictions.
Oui.
Mais en même temps, c'était intéressant de voir les gens utiliser les machines. Puis je trouve que ça engage des discussions qui sont intéressantes.
Oui, c'est intéressant. Quelles sont d'ailleurs, justement, vos sculptures sont très ludiques. Quelles sont les caractéristiques de vos sculptures?
Oui.
Je pense qu'elles sont très ludiques et attractives. Là.
Oui.
En tout cas, elles piquent la curiosité tout de suite. Là.
Mais je trouve ça.
Elles attirent notre regard.
Oui, c'est drôle parce que.
Qu'est-ce que vous faites pour arriver à ce résultat-là?
Ouais, c'est drôle, parce que je ne vais pas nécessairement penser à l'aspect ludique, mais je pense d'avoir une affinité puis un désir d'utiliser la couleur. J'aime beaucoup la couleur et je trouve qu'en sculpture, la couleur n'a pas toujours une place prépondérante. Alors, bon, le fait de pouvoir travailler, d'avoir à certains moments travaillé avec des tissus, là, c'est sûr qu'en tissu, l'éventail est très, très large.
Oui.
Mais en travaillant le bois aussi, il y a moyen de le... Fait qu'au fond, qu'importe le matériel que je vais utiliser, je vais souvent essayer de trouver un endroit où je peux mettre de la couleur, et souvent c'est un aspect qui est assez vivifiant.
Vous avez des petits personnages parfois, là?
Ah oui!
Juste canard ou...
Oui, mais ça a beaucoup été les... ce qui a motivé ça, c'est les...
Non, mais ça fait sourire.
Troubles, oui, c'est ça, les troubles obsessifs compulsifs.
Oui. Une autre communauté...
Tire un peu ses références de ça, de l'univers obsessif compulsif.
Oui.
Puis dans ces univers-là, il y a souvent, ça fait référence, les petits bibelots, entre autres, j'y prenais beaucoup pour faire référence un peu à l'entretien.
Oui.
Il y a des gens qui ont des soucis avec les germes.
Oui.
Alors, ils ne peuvent pas sortir quasiment parce que...
Ils sont prisonniers.
Prisonniers, c'est ça.
Oui.
Et ils sont toujours dans un souci de nettoyage et de rendre les choses aseptiques. Alors, le petit bibelot, il faisait ça aussi. Puis en même temps, je trouvais que ça faisait bien référence aussi à l'univers des femmes, qui est le quotidien, qui est répétitif.
Envahissant, lourd.
Oui, c'est ça. Et répétitif.
Oui.
Surtout des tâches domestiques, c'est hyper répétitif. Hein. On mange 3 fois par jour, puis faut répéter.
Donc avec cette sculpture-là qui est ludique, vous souhaitez susciter un questionnement, une discussion. Allez-y, vous souhaitez le but visé ultime pour vous.
Je pense qu'en art, on a cette opportunité-là de pouvoir placer les choses, l'univers dans lequel on vit, de le retourner, ce qui amène à se questionner sur son ordre.
Oui.
Et souvent, dans les relations de pouvoir, il n'y a pas que les relations genrées qui sont des relations de pouvoir, mais il y a beaucoup de relations de pouvoir dans les sociétés. Puis c'est un peu ça que personnellement, sais, des fois, je me dis, bon, c'est pas trop tonitruant, mais il y a quand même ça derrière mon travail, cette envie-là de un peu remettre en question les univers de pouvoir, tout comme...
Transformer les codes.
C'est ça, ça. Même dans Calmir, juste le fait, comme, bon, sans être à la blague, j'ai voulu donner un peu un aspect de, comme si j'étais un vendeur de chars. Alors, il y a trois véhicules qui sont présentés, il y a un mobilier qui évoque l'idée qu'on peut sélectionner des éléments, faire un assemblage qui est plus personnalisé des véhicules. Mais c'est sûr, entre moi, artiste vendeur de véhicules et femme vendeur de véhicules, je suis petite par rapport au vrai monde que représente cette industrie-là et ce monde-là. Mais c'est sûr que c'est, on pourrait dire, un peu discret, mais juste dans le fait de l'évoquer, il devient présent, là.
Bien, écoutez, poursuivez donc un petit peu ce survol de votre exposition, là. Qu'est-ce qu'on peut... un petit survol, pas trop en dire pour que les gens aillent voir de près ce que c'est, mais poursuivez donc sur la présentation de votre exposition en survol.
Ben, au fond, Accalmir, c'est le troisième ensemble d'éléments que je fais qui s'appelle justement...
Mais oui, vous avez plusieurs expositions à votre actif, là.
Des objets à investissement.
Dans une quête qui vise la quête d'un mieux-être.
Oui, c'est ça.
Oui.
Donc, Accalmir, c'est la troisième itération. Puis, au fond, Accalmir, par contre, c'est la première que je fais où, là, j'ai cherché à construire un mobilier qui était à usage individuel.
Auparavant,
bon, j'ai toujours eu des trios, là, parce que je trouve que c'est plus intéressant, des fois, d'avoir un échange entre trois éléments. Donc, il y a trois véhicules, tout comme dans Fixation, il y avait trois éléments. Puis, dans Air d'apaisement, il y avait trois éléments aussi. Mais les deux autres pièces auparavant, c'était l'idée d'être dans un lieu commun où on investit, où les gens étaient invités à essayer les machines, utiliser.
Dans le fond, les gens peuvent les manipuler?
Ben, au fond, non, parce qu'elles sont plus en démonstration.
C'est
dans ce sens-là que c'est peut-être là où ça...
Mais elles sont en mouvement, c'est ce qu'elles
sont en mouvement parce qu'il y a un détecteur de mouvement, oui, comme les gens ne peuvent pas l'utiliser, partir.
Mais elles bougent.
Oui, c'est ça. Puis l'idée dans celle-ci, c'est que, comme auparavant, on allait utiliser la machine dans le lieu d'exposition, là, il y a une espèce d'évocation qui est faite dans l'idée qu'on pourrait partir avec la machine et s'en servir dans un lieu qui est autre où on aurait besoin de cet objet-là pour...
Cette évasion-là, un
lui
peu.
Faire exécuter notre trouble. Tandis qu'auparavant, c'était comme un lieu de rencontre où j'allais me soigner dans un environnement.
Et vous avez aussi il y a plusieurs sculptures qui sont présentées, mais vous avez aussi un étalage.
Hein? Oui, le mobilier.
Un étalage relatif aux pièces de voiture.
C'est ça. Ben, le présentoir, au fond, je m'en suis servi comme pour faire référence à chacun des véhicules.
Oui.
Puis l'idée que, bon, quelqu'un pourrait décider de le transférer, par exemple, j'ai mis on parlait de petit oiseau tantôt. Alors, quand j'ai mis le petit oiseau, ben, au fond, ça aurait pu être, il y a un cheval, il y a des oies, il y a d'autres.
Il y a possibilité d'interchanger les pièces.
C'est ça.
C'est vraiment un vrai magasin.
Mais c'est comme si...
Et des marchandises en démonstration.
Oui, c'est ça. Ben, c'est
le concept.
C'est ça. Ce serait possible de sélectionner d'autres caractéristiques pour le véhicule. On peut changer les pneus, les jantes, les poignées. Donc, c'est ça. On parlait aussi de cam en tournée tantôt, dire.
Oui.
Au fond, j'avais trois... présentation, c'est le Conseil des arts de Montréal, au fond, qui a sélectionné...
L'exposition va faire halte ailleurs.
Dans trois maisons de la culture. J'ai déjà fait Notre-Dame-de-Grâce, NDG. Notre-Dame-de-Grâce. Et là, je vais...
Maisonneuve.
Et je vais aller à la Chine.
À la Chine
en mars-avril. Fin mars.
C'est très intéressant.
Puis la Chine, là, c'est des murs. Oh. C'est un vieux bâtiment historique, là, fait que ça va être intéressant de voir comment, fait que d'un endroit à l'autre, la pièce, comment je dirais, s'exprime.
excuses. Nous avons pu, toutes nos excuses, quand nous avons pu présenter l'introduction avant cette entrevue avec Pamela Lantry. Alors, cette entrevue en rediffusion, hein, c'est une entrevue en rediffusion qui a eu lieu avec l'artiste Pamela Lantry en janvier 2024 au sujet de son exposition en tournée à Calmire, qui est présentée à nouveau actuellement à la Maison de la Culture La Chine. L'entrepôt, donc, jusqu'au 26 mai, il a commencé un peu plus tard qu'en mars ou avril, là. Et qui plus est, l'artiste nous présente aujourd'hui, sera présente aujourd'hui à la Maison de la Culture pour une visite commentée et un atelier aujourd'hui à 13h30. Alors, allez-y, ça vaut d'aller rencontrer cet artiste, lui, qui est très disponible pour répondre à toutes vos questions, très réceptive. Mais tout d'abord, c'est ça. Et nous avons entendu, bien sûr, un pont musical, là, non pas chanté par Boris Vian, La Complainte du Progrès, mais par Mademoiselle Faustine.
T'as reconnu aux multiples sources d'inspiration, Stéphane Leblanc présente du 13 au 20 mai sa nouvelle collection Street Funk Montreal à l'Original Art Gallery. L'artiste visuel multidisciplinaire fait flèche de tout bois, photos, vidéos, danse et peintures, pour créer un kaléidoscope où se fondent et se défont le noir et le blanc, dans une expérience immersive. Pour ne pas dire subversive. Suivez ainsi à la trace son alter ego Funky, sorte de guerrière armée d'une puissante bombe aérosol. L'Original Art Gallery est située au 163 rue Saint-Paul-Ouest.
Alors, on vient d'entendre une charmante interprétation d'une musique représentative de l'époque de l'enfance de Pierre Bonnard, hein, dont la musique est de Gabriel Fauré, les paroles de Victor Hugo, hein, rendant hommage, donc, au mois de mai. Et ne sommes-nous pas en mai, et avec une température radieuse. Alors, Pierre Bonnard, qui fait l'objet d'un nouveau film intitulé Bonnard, Pierre, Marthe, réalisé par Martin Provost, qui sera à l'affiche à partir du 31 mai et dont on parlera dans quelques instants en compagnie de Léna Guillot. Mais tout d'abord, faisons un retour sur l'inauguration en grand des nouveaux espaces de la SAT qui a eu lieu jeudi passé. Alors, jeudi passé, la SAT annonçait les rénovations importantes réalisées dans le cadre d'un chantier de 18,2 millions de dollars d'une durée de 14 mois. Un chantier qui avait comme mandat plus spécifique de mettre à jour les infrastructures et renouveler la flotte d'équipements technologiques. Au niveau de la salle de spectacle, le centre de formation, le laboratoire de recherche, le développement de la nouvelle galerie, de nouvelles galeries d'exposition éphémères, un restaurant, un café, le tout pour vraiment maximiser le potentiel d'innovation des artistes, l'expérience partenaire et l'expérience publique. Et je joins Léna Guillot qui était présente lors de l'inauguration jeudi passé, qui a visité les locaux. Est-ce que je parviens à joindre Léna?
Oui, Madame Chantal, vous avez rejoint Léna. Je suis enchantée de vous parler aujourd'hui de la SAT des rénovations ainsi que du merveilleux film qu'on va discuter après. Alors, c'était une soirée exceptionnelle. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. J'ai visité les locaux en arrivant parce que c'était une très bonne idée parce que il y avait trop de monde. Alors, donc, j'ai eu la chance de visiter avant que tout le monde arrive. Et puis, ça fait des années, moi, que je suis la SAT parce que je suis émerveillée de leur accomplissements qui vont toujours en grandissant et en grandissant et en grandissant. Si vous voulez voir ces phénomènes-là, vous pouvez visiter mon blog de Léna Guillot Paradoxe, puis là, demander la SAT. Puis vous allez voir des années et des années de recherche, de colloques et d'évolution qui mènent finalement à aujourd'hui. Ben écoutez, les artistes en art technologique vont pouvoir travailler de façon inimaginable.
Oui, hein?
Vous allez pouvoir vous regrouper avec des artistes d'autour du monde.
Oui.
Puis pas nécessairement là, par le méta, là,
oui.
où tu es en surréel, là, mais en direct avec ces personnes-là.
Ah, oh, c'est intéressant.
Travailler sur des projets, jouer des jeux, juste visionner des œuvres d'art, de la musique, etc. C'est oh my God, c'est difficile à résumer. C'est pour ça que c'est une bonne idée pour vous d'aller visiter le
oui,
site
oui.
de la SAT. Alors, ça, c'est
le numéro. Tu as apprécié ta visite, Léna, c'est ça. Et parce que moi, quand j'ai été visiter, j'ai pu visiter les locaux, j'ai vu les rénovations extérieures, mais toi, tu as vraiment fait l'expérience là, cette connexion avec le monde.
Exactement.
À l'international.
Donc, pour vous donner un exemple de la subtilité, oui. Puis là, c'est rien qu'un petit exemple parce qu'il y avait tellement de monde que j'ai pas tout vu non plus.
Mais oui, il y avait beaucoup de dignitaires.
Parce qu'il y avait trop de monde, puis on était en ligne pour attendre, puis on avait quand même un certain temps pour le faire. Alors, le jeu que j'ai vu,
oui.
On a des. Il y a des.
Léna, on va faire ça vite. On va faire ça vite, Léna. On va y aller rapidement. Oui.
OK. Oui. Donc, il y a des cercles de lumière. On
oui.
pile sur les cercles de lumière.
Oui.
En groupe, le groupe décide. Je sais pas par quel processus encore, quel jeu qu'on va jouer.
Oui.
Puis là, ceci, on se met à jouer un jeu virtuel dans la pièce en faisant des choix comme ça. Absolument hallucinant.
Ben, merci beaucoup, Léna. Merci beaucoup. Passons tout de suite au film, Léna. Le film Bonheur, Pierre Marthe sera bientôt projeté en salle de cinéma à partir du 31 mai. Hein. C'est un film réalisé et écrit par Martin Provost, cinéaste du fameux film Séraphine, qui œuvrait dans l'art brut, l'art naïf en 2008, que j'ai beaucoup apprécié. Cette fois, ben, il propose un film qui s'inscrit dans la série de films avec qui jette un regard féministe là, qu'on a eu toute l'année, une série de films féministes sur l'entourage de l'artiste dont sa muse et compagne Marthe de Méligny. On apprend aussi qu'elle était peintre. Moi, je ne le savais pas. Et puis, mentionnons hein, que, écoutez, que Pierre Bonheur, tout ça, est né en 67, décédé en 1942. Il a été peintre, décorateur, illustrateur, lithographe, graveur, sculpteur français. Il est associé, hein, c'est ça, il est reconnu pour l'originalité de ses compositions, son exploration de la lumière éclatante, de la couleur, sa grande inspiration à peindre ses proches. Il est associé, bien sûr, au mouvement Nabi, mouvement artistique impressionniste d'avant-garde. Il aimait beaucoup l'art japonais. Alors, Léna, comment as-tu trouvé ce film-là?
Moi, j'ai adoré.
Oui?
D'abord,
okay.
Le jeu est exceptionnel. Les comédiens, c'est formidable.
Oui? Bon.
Et le décor champagne.
Ah oui, hein? Tout le long du film.
On se sent plongé dans la campagne.
Oui.
Une belle campagne. Puis quand les personnages circulent dans les magnifiques jardins,
oui.
Décors, la précision du rendement historique avec les
oui.
costumes et tout, c'est vraiment un film, comme dirait moi-même.
Oui, tu te cites toi-même, oui.
C'est ça, que toutes les personnes qui aiment l'art et le cinéma, c'est une expérience incontournable, vous allez tellement aimer ça. D'abord, on voit aussi le processus créateur de Bonheur,
oui.
Puis avec l'intimité de Marthe, puis il est toujours, toujours, toujours en train de le regarder, c'est extraordinaire, mais les toiles qu'il produit sont tellement belles, et on découvre finalement des toiles que moi, je connaissais pas.
Oui.
Puis on le voit dans l'époque où il les faisait. Moi, j'ai beaucoup aimé ça.
Alors, Léna, merci. Ah, alors, oui. J'entends que tu as fortement apprécié ce film-là, que moi, j'ai trouvé effectivement inspirant, qui nous comble en scènes de la nature idyllique. Plusieurs scènes de réalisation d'œuvres captivantes, effectivement. Mais, la situation de la femme à l'époque est bien dépeinte. Toutefois, moi, je trouve que le personnage central, Pierre Bonnard, parle peu de son art. Il y a un petit peu un manque dans, parfois, de dialogue approfondi. Ma grande déception, c'est beaucoup le peu de temps accordé à tout son entourage, là. On dit, par contre, qu'il était très solitaire. C'est peut-être la raison pour laquelle on a fait ce choix de présenter peu son entourage. Les quelques scènes sont tendues. Ça ne présente pas des peintres de renom sur leur meilleur jour. Il y a une scène qui frôle le ridicule, celle de Missia, là, dans l'eau. Écoutez, quelques temps morts, mais c'est quand même un film. Les critiques sont partagées, Léna. Les critiques, il y en a qui sont positives, il y en a qui sont négatives.
Mais ça arrive.
Oui.
Moi, j'ai vu ça d'un œil différent.
Oui.
Puisque on met l'attention sur Marthe.
Oui.
Et comment elle était particulière.
C'est excellent, excellent.
C'est elle qui est toujours en primeur, si tu regardes comme il faut le film.
Oui, c'est un film sur Marthe.
La regarde, c'est toujours son aventure à elle. Alors, par exemple, on voit quand elle va voir sa mère adoptive.
Léna, on doit se laisser.
Je mets Pierre aller voir un autre personnage sans Marthe.
Oui, on doit mettre fin. On en parlera encore et encore, mais c'est tout. Merci beaucoup, Léna, là, pour ce compte-rendu élogieux.
Il faut passer un beau week-end.
Bon week-end de la fête des Patriotes. Merci, cher auditoire. Je vous souhaite une bonne longue fin de semaine. Rendez-vous le samedi prochain. Merci, portez-vous bien. Profitez de la fin de semaine.
Il y en a plus de gens qui aillent dans les galeries, qui voient que c'est pas si cher.
Les arts visuels, ça aurait